Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour un carrefour un peu exceptionnel autour d'un grand témoin européen, Enrico Letta. Bonjour Enrico Letta.
Bonjour.
Vous êtes évidemment plus connu en Italie qu'en France, quoique en Italie vous avez longtemps été l'enfant prodige de la politique italienne, le plus jeune ministre de la péninsule, puisqu'à 32 ans seulement vous êtes en charge des affaires européennes de votre pays. Déjà l'Europe, et il faut dire que vous avez l'Union européenne chevillée au corps, vous avez grandi à Pise mais aussi à Strasbourg, et c'est là sur les bords du Rhin que l'Europe vous est apparue comme une évidence. Difficile, voire impossible de trouver des propos négatifs ou désobligeants à votre égard. Vous êtes un homme de consensus. Tout au plus, a-t-on pu vous reprocher un manque de charisme, reproche balayé le jour où, plus jeune Premier ministre en Europe, vous avez terrassé à 46 ans Silvio Berlusconi, qui avait empoisonné 20 ans durant la vie politique italienne. Vous avez été Premier ministre 10 mois, entre 2013 et février 2014, à la tête d'un gouvernement de coalition de centre-gauche, dans une Italie en plein désarroi, avant de devoir laisser la place à la suite d'un putsch de votre meilleur ennemi et néanmoins camarade de parti, Matteo Renzi. Au cours de ces 10 mois, votre engagement européen ne s'est jamais démenti. Témoin, ces quelques mots prononcés lors de votre investiture, je vous cite, « Le port vers lequel nous nous dirigeons s'appelle les États-Unis d'Europe. Nous ne devons pas rêver les rêves des autres. Nous avons le nôtre qui est celui de l'Union politique européenne. » Vous êtes un Européen convaincu, on l'a déjà compris. Allez-vous être un Européen convaincant? Alors que jamais l'Union européenne n'a connu pareille crise, avec l'afflux des migrants bien sûr, mais aussi avec un risque réel de désintégration dont le Brexit n'est que la partie la plus visible, et alors que les Européens sont de plus en plus nombreux à douter des bienfaits de l'Europe. Un dernier mot, avant d'entamer notre débat, vous avez quitté Rome pour Paris, alors qu'au pays des sénateurs à vie, vous auriez pu poursuivre tranquillement votre carrière politique, vous avez démissionné de votre mandat de député pour rejoindre Sciences Po Paris, où vous êtes le directeur de l'école des affaires internationales. Cette décision a surpris en Italie, Enrico Letta, mais aussi en France. Elle s'explique par le ras-le-bol de la politique ou par le désir de partir pour mieux revenir?
Non, c'est le désir de nouvelles aventures, nouveaux défis et surtout aussi la pensée du fait que c'est fini avec la politique de longue carrière de 40 ans. C'est fini, je pense que les gens n'en veulent plus de longues carrières politiques de 40 ans dans lesquelles vous passez d'un fauteuil à l'autre. C'est le temps de l'authenticité. Alors je pense que pour moi ça a été bien, après 16 ans de vie politique au niveau national et européen, de continuer l'engagement politique. Vous avez dit le rêve européen et continuer cet engagement d'un autre point de vue, naturellement la recherche, l'enseignement et l'université ici à Paris, une des grandes capitales européennes.
Un mot, ça veut dire qu'on a plus de chances de vous revoir un jour à Rome ou à Bruxelles?
Bon, écoutez, never say never.
À mes côtés pour vous découvrir, Enrico Letta, Eric Scholl, le directeur de la rédaction du Courrier International. Bonjour Eric.
Bonjour.
À vous la première question européenne.
Vous avez été à l'origine en 2013 de l'opération Mare Nostrum. C'était au moment où les problèmes de migrants commençaient à se poser pour l'Union européenne. Ce problème-là est devenu majeur aujourd'hui pour l'ensemble de l'Europe. En 2015, plus d'1,2 million demandeurs d'asile ont été enregistrés dans l'Union européenne. Depuis le début de l'année, on compte déjà 130 000 demandes. Alors, est-ce qu'il fallait arrêter cette opération Mare Nostrum qui a été mise en place pendant un an, ou est-ce que vous regrettez aujourd'hui qu'elle ait été arrêtée, ou fallait-il la poursuivre?
Il y a eu beaucoup de polémiques autour de Mare Nostrum. Mare Nostrum était une opération pour chercher de rendre sûre la mer Méditerranée, éviter qu'elle devienne Mare Mortum, comme elle est devenue, hélas. Et c'était l'idée de dire Mare Nostrum pour dire la mer de la vie. Et on avait cherché non seulement de sauver les gens, mais d'attaquer aussi les smugglers, les trafiquants. On pouvait le faire parce qu'on contrôlait la mer. Et naturellement, c'était un grand engagement de la marine militaire italienne, parce que rien d'autre en Europe avait voulu prendre ce genre d'engagement. Et on s'était dit, l'Italie est le plus grand pays méditerranéen, et donc c'est à nous de prendre cet engagement. On l'a fait, on a payé le coût de le faire, mais je pense qu'à la fin, 150 000, selon les Nations Unies, personnes ont évité de mourir dans la mer, et je pense que donc ce risque a été très bien de le courir, ça a été positif. J'ajoute, et votre question est très claire, et je veux répondre, ça a été une erreur d'arrêter Mare Nostrum, parce qu'il était clair que l'Europe n'était pas prête à faire une suivi de Mare Nostrum européenne, et naturellement, donc l'aide s'est arrêtée tout de suite, et aussi parce que on a arrêté Mare Nostrum pour une motivation politique. On l'a fait parce que il y avait une attaque de ceux qui disaient Mare Nostrum c'est un espèce de taxi qui fait venir les migrants. Alors c'est pas la vérité. Je cite les chiffres. En 2015 et tout de suite après que Mare Nostrum a été complètement stoppé, il y a eu un flux de migrants qui a été presque le triple de celui qui avait eu lieu pendant Mare Nostrum. Donc ce n'est pas vrai que c'était un taxi. C'est vrai que ça a été une façon de sauver des gens, mais naturellement, les raisons des migrations ne sont pas à rechercher dans le fait qu'on sauvait les gens. Les raisons sont beaucoup plus lourdes, importantes, nuancées, et c'est aux raisons qu'il faut s'attaquer, et non pas au fait qu'on avait sauvé des gens. Et je suis orgueilleux du fait qu'on a sauvé des gens et on a évité qu'ils puissent mourir dans la mer. Vous savez, on a seulement eu, pendant les jours de la photo du pauvre Eilan, ce pauvre petit garçon qui a perdu sa vie dans la mer méditerranéenne, l'opinion publique a tout de suite dit « mais non, on peut pas accepter ça ». Et les gouvernants aussi. Mais moi, je dis « on le savait qu'il y avait des enfants qui mouraient ». Et donc, puisqu'on le sait, il faut l'éviter. Il faut pas seulement se déchirer les vêtements quand on voit une photo.
Alors, il y a à la fois une opinion publique très volatile, vous venez de l'expliquer, d'un coup d'État, puis une Europe qui n'est pas plus prête aujourd'hui qu'elle ne l'était hier à accueillir ces migrants. La conséquence, c'est des initiatives nationales, des décisions unilatérales de fermer des frontières, une cacophonie sans nom, et puis à terme, un espace Schengen qui est menacé. Jusqu'où ?
Commençons par dire que Schengen est une grande conquête positive. On dit que le coût de remettre les frontières entre les pays européens serait aux alentours de 10-15 milliards d'euros par an. Et ce coût est un coût, naturellement, premièrement, il faut qu'il y ait des gens à ces frontières, et ces gens coûtent aux communautés nationales. Éliminer les frontières a été une énorme épargne pour les dépenses publiques nationales. Deuxièmement, pensez seulement au fait qu'il y a tout le trafic économique entre nos pays. Ça veut dire que chaque camion doit s'arrêter. L'arrêt d'un camion veut dire du temps perdu, de l'économie perdue. Et donc, il y a un sujet économique, premièrement. Et deuxièmement, il y a un sujet de grande valeur. L'Europe a, entre ses valeurs, la liberté de mouvement. C'est une des questions capitales en Europe. Et le fait de remettre les frontières entre nous, je pense que c'est une grande erreur. Il faut l'éviter. Il y a maintenant quelques pays européens, de l'Autriche à la Suède, qui ont remis les frontières. Je pense que c'est assez aveugle comme décision. Ce sont des décisions pour les opinions publiques, pour les élections. Les élections en Slovaquie, les élections dans les différents pays qui votent. C'est une façon de faire campagne électorale, remettre les frontières. Parce que ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne résout pas le problème. Mais c'est seulement faire de la campagne électorale en sachant que le grand problème, je le dis parce que je sais quelle est la réaction quand je dis ça, c'est que il faut sécuriser la frontière à l'extérieur.
Donc il faut Schengen, c'est ça. Réformer ou appliquer Schengen ?
Ben, il faut réformer, c'est-à-dire que Schengen doit être appliqué avec ce qui a toujours manqué, c'est-à-dire le contrôle de la frontière extérieure de l'Union. Et ce contrôle ne peut pas être laissé à l'autonomie de chaque État membre, parce que c'est une idée, de mon point de vue, fausse, de fausse souveraineté nationale, celle de dire chacun garde sa propre frontière. Parce que on ne se fait pas de confiance entre les Européens, entre eux. Et donc, de dire que les Italiens, les Grecs doivent gérer la frontière qui est la leur, mais aussi, c'est la frontière de tous, je sais très bien, en France, en Allemagne, en Finlande, On croit que ce n'est pas une frontière bien gérée. Mais on pourrait dire la même chose de la frontière entre... je ne fais pas d'autres exemples, mais on se comprend très bien. Donc là, le point est... Il faut qu'il y ait un corps de garde-frontière européen.
De garde-frontière et de garde-côte, bien évidemment.
Voilà, naturellement, gérer tous ensemble en condition de gérer la frontière extérieure de l'Union. Ça, c'est la condition pour avoir le manque de frontières à l'intérieur, et c'est une des conditions clés pour qu'on puisse vivre dans une Europe des libertés et des libertés de mouvement.
C'est-à-dire que la frontière aujourd'hui entre la Grèce et la Turquie devrait être contrôlée, surveillée par... un corps de garde-côte européen et non pas grec ?
Oui, et aussi, par exemple, la frontière à l'aéroport de Tegel devrait être gérée par des Italiens, des Espagnols, des Irlandais. C'est la seule façon de rendre effectivement européenne la frontière extérieure et donc de rendre possible qu'on puisse éliminer les frontières à l'intérieur.
Est-ce que l'afflux de migrants met en péril l'existence même de l'Union européenne ?
Je pense que le grand défi des migrations est le défi majeur pour décider si l'Europe est en train de grandir ou pas, si elle est prête pour les grands défis du futur. Quand je pense aux migrations, je ne pense pas à une grande crise liée à la Syrie ou liée à l'Irak, à des guerres qu'on a vécues, dont on voit les conséquences. Quand je pense au défi des migrations, je pense au futur. Parce que je pense que le futur est un futur dans lequel la mobilité des gens, que ce soit des réfugiés ou que ce soit des migrants pour d'autres raisons économiques surtout, ce sera le futur. Et ce sera un futur qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je pense que ceux qui sont au gouvernement, qui mènent les nations, doivent prévenir les problèmes, non pas être là pour réagir à des problèmes. Quand on réagit aux problèmes qui sont éclatés, c'est toujours plus difficile. Alors, il faut commencer par dire aux gens, écoutez, le futur est un futur dans lequel la mobilité sera une des données les plus importantes de nos vies. Alors, il faut gérer tout ça. Il faut gérer, ça ne veut pas dire ouvrir nos portes sans aucune règle. Gérer, ça veut dire mettre en commun toute une série de règles, gérer la frontière extérieure, aider nos pays voisins, parce que si on ne les aide pas, c'est une façon de leur dire « venez chez nous » parce que chez vous c'est le désastre.
Vous pensez à la Turquie par exemple ?
Je pense à la Turquie, mais je pense surtout à l'Afrique du Nord, à la Méditerranée en tant que telle. Quand je vois 1 250 000 demandes de réfugiés, pendant l'année 2015, bon, ça c'est aussi la réaction et la conséquence du manque de politique euro-méditerranéenne de la part de l'Europe, qui a pensé seulement à l'Est et a complètement oublié la Méditerranée en imaginant que là il y avait la mer et la mer était infranchissable. Bon, c'est pas ça, ça a été une erreur, une grande erreur.
Alors pour autant, est-ce que l'Union européenne a vocation à accueillir tous les Syriens, les Afghans et les réfugiés qui demandent asile ?
Je pense qu'il faut naturellement mettre des règles, il faut mettre des quotas. Je pense qu'il faut appliquer aussi des critères pour éviter ce qui est en train de se passer en Allemagne. Là où, par exemple, vous aurez deux énormes communautés de migrants. Communauté turque, communauté syrienne, de millions de personnes. Alors, je pense que le modèle d'intégration est un modèle dans lequel vous avez beaucoup de communautés, mais des communautés qui ne sont pas si grandes que ça. Parce qu'il faut que la communauté s'intègre dans le pays et qu'il ne se crée pas des pays dans le pays. Parce que ce modèle-là ne fonctionne pas, ne marche pas. Il faut des communautés plus petites et intégrées. C'est la seule façon dans laquelle, historiquement, on a vu que l'immigration peut servir et peut marcher. Autrement, les réactions, les conséquences négatives vont être très difficiles à gérer.
Vous parliez de l'Allemagne. L'Allemagne, la chancelière Angela Merkel est souvent critiquée pour ses positions très ouvertes pour les migrants. Par ailleurs, et c'est peut-être moins connu, l'Allemagne a fait un geste très important. Elle a promis 570 millions d'euros pour le programme alimentaire mondial pour venir en aide aux réfugiés là où ils se trouvent en quittant la Syrie, notamment ils se trouvent au Liban, en Jordanie, en Irak, dans des camps de réfugiés qui manquent beaucoup de financement. Est-ce que c'est à l'Allemagne de faire ce principal effort financier? Est-ce que c'est pas à l'Europe aussi d'en faire plus pour aider ces réfugiés qui se trouvent dans des camps, dans des situations souvent très 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 mauvaises?
Une des motivations pour lesquelles j'avais organisé l'opération Mare Nostrum, c'était parce que j'avais aussi visité et vu de mes propres yeux les camps de réfugiés syriens au Liban. 4 millions d'habitants au Liban, 1,5 million de réfugiés syriens, plus qu'un tiers de la population. C'est énorme, c'est impossible à gérer. Alors c'est pour ça que il faut qu'il y ait une initiative au niveau européen et des plus grands pays pour faire en sorte que cette aide aux pays voisins, aux autres pays, soit une aide concrète. Parce que naturellement, il faut aider les réfugiés et les migrants dans les pays où ils viennent. Mais il faut aussi créer des institutions qui soient en condition de bien fonctionner. L'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, aujourd'hui menée par M. Grandi, est en train de faire tout le possible, mais il faut les aider. Il faut que l'Europe soit en condition de faire ce qu'elle peut. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Mais vous avez cité l'Allemagne. J'ajoute une autre chose. Je pense qu'on est en train tous de sous-estimer ce qui pourrait se passer en Allemagne. Parce que l'Allemagne aujourd'hui demande solidarité. Dans les pays d'Europe du Sud, on a beaucoup attaqué l'Allemagne pour son manque de solidarité pendant la crise financière.
En Italie, en Grèce.
Voilà. En Italie, vous savez, parler mal de l'Allemagne, c'est gagner les élections. Tout de suite. Prendre Merkel comme cible, et c'est pour ça que beaucoup de monde le fait, je pense que c'est une erreur.
Y compris le Premier ministre italien.
Absolument. Et je pense que la question clé, là, est différente. La question clé est de comprendre que ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est quelque chose d'impressionnant du point de vue des chiffres. Ils sont en train d'avoir 100 000 réfugiés qui entrent par mois. Alors que, je prends la France, l'Italie, on est au désespoir quand il y en a 5 000 par mois dans nos pays. Ce qui, naturellement, me porte à dire que...
Jusqu'à quel point c'est tenable?
Premier. Deuxième point, maintenant, aujourd'hui, l'Allemagne a besoin de la solidarité européenne. Et si on dit seulement, comme beaucoup de monde le fait, maintenant c'est à leur tour, hein, de voir comment c'est sans solidarité, on ne comprend pas que l'Europe, avec une Allemagne qui s'effondre, est une Europe qui perd... sa force, est une Europe qui perd beaucoup dans une situation dans laquelle on imaginait en 2016 de grandes reprises économiques. Ce n'est pas le cas. Et le risque que l'Allemagne s'effondre parce que la crise des réfugiés devient crise politique et économique est un risque majeur pour tous. Donc, vous savez, je pense que le mot solidarité, la parole solidarité, est-ce qu'en français vous avez la possibilité de dire parole et mots. Et c'est une façon différente de dire les choses. Alors, je dis, la parole solidarité est la base de l'Europe. On l'a mis d'à côté pendant des années en disant que solidarité, c'était assistentialisme, quelque chose de négatif. Maintenant, l'Allemagne demande solidarité. La France, l'année passée, a demandé solidarité après les attaques. La solidarité redevient le cœur de l'Europe. Et c'est bien, parce que l'Europe, c'est solidarité et responsabilité ensemble.
Damonir Kolita, on arrive presque au terme de cette première partie, solidarité avec les Grecs et la Grèce d'Alexis Tsipras, qui est totalement débordée aujourd'hui.
Mais naturellement, c'est solidarité avec eux aussi, en demandant responsabilité de leur part. Responsabilité, ça veut dire qu'il y a eu des roadmaps qu'on a construits avec eux. Il faut qu'elles soient appliquées, parce que dans le futur, on ne peut plus avoir ce qui s'est passé en Grèce. Soit un manque de solidarité européenne, soit le fait que les autorités grecques ont triché avec nous tous. Et puisqu'on vit dans la même maison, on ne peut pas accepter qu'on triche. Il faut avoir des règles, il faut qu'on les applique.
On va faire une courte pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, avant de vous retrouver dans quel état. Juste le temps de prendre connaissance des dernières infos. A tout de suite.
Podcast. spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de notre grand témoin européen, Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, européen convaincu s'il en est, et aujourd'hui directeur de l'École internationale de Sciences Po Paris. À mes côtés, Eric Scholl, le directeur de la rédaction du Courrier international, le partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Eric, vous aviez envie de revenir sur Angela Merkel.
Oui, aujourd'hui c'est un test électoral, le premier grand test électoral pour Angela Merkel, puisque on vote dans trois Länder pour des élections régionales, donc en Allemagne. Les sondages ont été un peu contrastés, mais on a bien vu que Angela Merkel avait perdu beaucoup de crédit, notamment auprès de son propre électorat, après sa prise de position plutôt favorable aux migrants. Est-ce que elle joue gros aujourd'hui dans ces élections? Est-ce que sa position de solidarité est une position tenable?
Je pense que Angela Merkel a un capital de force politique dans son pays, en Europe, très important. Donc elle peut se permettre de perdre quelque chose de ce capital. Mais je crois qu'en Allemagne, le risque d'une explosion politique du panorama auquel on a été toujours habitué est un risque réel. Et c'est pour ça que je plaide pour une solidarité vers l'Allemagne aujourd'hui. On ne peut pas seulement se borner à dire c'est leur faute, ils ont décidé comme ça, c'est à eux. Ceux qui sont en train de vivre avec cet afflux de réfugiés si important que ça est une question européenne. C'est vrai, c'est une question européenne, mais c'est l'intérêt de nous tous de faire en sorte qu'ils puissent réussir à maîtriser tout ça. Donc aujourd'hui, le test dans trois Länder est très important. Et naturellement, ce soir, on va voir les résultats avec beaucoup d'attention parce que ça peut donner des conséquences importantes au niveau national et donc européen aussi.
Un mot encore sur Angela Merkel. Elle compte beaucoup sur la Turquie pour réguler le flux des migrants. On peut faire confiance à la Turquie ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pense qu'on doit. On n'a pas beaucoup d'alternatives. On doit faire confiance à la Turquie, c'est-à-dire qu'il faut faire avec eux des accords. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que les mettre complètement hors de la porte européenne, ça a été une erreur à la fin. Là, le vrai problème, c'est qu'on manquait d'outils au niveau européen. C'est-à-dire, je plaide non seulement pour la Turquie, mais aussi pour d'autres raisons, et comme ça on peut entrer dans le sujet Brexit peut-être, pour une Europe à deux cercles, à différents cercles, dans lesquels on peut avoir des pays comme la Turquie, avec lesquels on devient partenaire, qui ne sont pas membres à part entière, mais avec lesquels on doit, parce qu'on a des intérêts communs, c'est notre propre intérêt avoir avec eux des bonnes relations. Si on les met seulement à la porte, comme ça a été fait il y a 10 ans, les conséquences sont négatives pour nous, pour eux et pour le reste de la Méditerranée.
Alors, le Brexit, justement, puisque vous l'évoquez, Enrico Letta, qu'est-ce qu'il signifie au-delà du désir des Britanniques de prendre le large? Qu'est-ce qu'il signifie plus profondément pour les citoyens européens, ce Brexit?
Moi, je pense que ce serait un désastre, je le dis très franchement, un désastre pour l'Europe continentale et pour la Grande-Bretagne. Un grand désastre parce que, vous savez, moi je pense qu'à la fin, si on regarde le monde de demain, la Chine, l'Inde, on peut dire que les pays européens, on peut les diviser en deux groupes. Les pays qui sont petits et les pays qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits. Et c'est une différence qui est assez, ça peut faire rigoler un peu, mais c'est vrai. Alors, la Grande-Bretagne fait partie des pays qui n'ont pas encore compris qu'ils sont petits dans le monde. Et c'est pour ça que je plaide pour une Europe plus unie. L'Europe qu'on a aujourd'hui, elle ne marche pas. On doit la réformer, oui. Mais il faut qu'on soit ensemble. Si on est chacun séparé, on ne sera pas les grandes puissances du siècle dernier. On sera des petits pays dans un grand monde qui a complètement changé. Et c'est pour ça que seulement ensemble, on peut avoir la taille, la masse critique pour, sur les grands sujets, discuter avec les Américains, les Chinois, les Indiens. Sinon, c'est eux qui vont faire les règles du monde de demain et nous, on va les appliquer. Alors, je préfère être représenté par un Français, un Belge, un Néerlandais, comme Europe unie, à décider les règles et non pas à les appliquer.
Donc il faut quand même garder les Britanniques, même s'ils ont tendance plutôt à appuyer sur le frein de la construction européenne.
Oui, mais dans mon expérience d'Européen, j'ai vu beaucoup de fois qu'on les a pris comme alibi. Dans les couloirs des conseils européens, quand j'entendais quelqu'un qui me disait « Ah là, on peut pas faire parce que les Britanniques sont contre », je savais que dans son cœur, il était contre aussi. Et il employait le veto britannique pour éviter une chose. Non, je pense que la Grande-Bretagne a été positive pour beaucoup de questions. La Grande-Bretagne est un pays dynamique, avec une économie très compétitive, et qui aide le reste de l'Europe. Ce serait, je pense, suicidaire d'aider les Britanniques à sortir de l'Europe. On va perdre en Europe beaucoup de compétitivité. Alors là, la solution, je pense, c'est une Europe à deux cercles. De dire, bon, on n'a pas le même but. Les pays de l'euro, on veut plus d'intégration parce que comme ça, on peut faire marcher l'euro et on peut avoir compétitivité entre nous. Les pays et l'Angleterre, la Grande-Bretagne en particulier, qui veulent partager avec nous quelques politiques comme le marché unique ou le commerce extérieur, on les lie dans un cercle large, ce deuxième cercle, et ça peut marcher, ça peut éviter qu'ils sortent, ça peut faire rester Londres comme une grande place financière au niveau global.
Dont on a besoin de toute façon?
Oui, je pense que oui. Et écoutez, je pense au cas échéant, le cas contraire. Dans le cas du Brexit, vous allez avoir la Grande-Bretagne qui va exploser parce que l'Écosse va rentrer dans l'Union européenne. On va avoir l'Europe qui va continentale, qui va perdre d'importance dans le monde et qui va perdre un des piliers pro-compétitivité. Donc, ça va être... C'est une lose-lose situation et c'est pour ça que je pense que à la fin, il faut tous soutenir l'effort d'éviter le Brexit et il faut tirer profit de cette opportunité et passer vers une Europe à deux cercles.
Éric Scholl, le Courrier International.
Monsieur l'État, vous avez des arguments très rationnels, mais au fond, on a l'impression aujourd'hui en Grande-Bretagne que le camp du Brexit, donc le camp de la sortie de l'Union européenne, a le vent en poupe, notamment depuis que Boris Johnson, le maire de Londres, a pris la tête de ce camp. Au fond, on a l'impression que l'opinion publique britannique ne perçoit pas tous ces dangers d'une sortie d'Union européenne, sans doute parce que l'Union européenne n'attire plus. Il y a déjà eu un référendum en Grande-Bretagne, c'était il y a 40 ans. Cette fois, à l'époque, les Britanniques ont choisi de rester. Aujourd'hui, on a l'impression que plus rien ne les retient dans l'Union européenne.
Oui, j'ai été aussi frappé par le choix de Boris Johnson. Je pense que c'est un choix naturellement respectable. Je crains que ce choix ne tienne surtout à des raisons de politique interne au parti des Tories et de questions de carrière politique.
Pour devenir Premier ministre ?
Peut-être, mais naturellement, tout ça est absolument légitime. Hein. Le grand sujet est que jusqu'à maintenant, le pro-in n'a pas été très vocal. Le grand argument... Si j'étais quelqu'un engagé dans le débat britannique, je serais là à employer. C'est celui de dire, bon, la Grande-Bretagne va très bien dans les dernières années. Elle va très bien après que l'Europe a fait le marché intérieur et a fait tout ce qui est aujourd'hui l'Europe unie. L'Angleterre et la Grande-Bretagne des années 70, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Oui, ils ont fait des réformes. Mais ils ont profité très bien du marché intérieur. Ils ont rendu possible à Londres de devenir la grande capitale financière qui est importante parce que c'est l'accès au grand marché de 500 millions d'Européens. Et ils ont bien profité de l'Europe. Et je suis optimiste à la fin parce que je sais que les Britanniques ne votent jamais... disons avec l'estomac, mais ils votent toujours avec la rationalité. Ils sont très rationnels et ils savent tous... très bien qu'avec l'Europe, ils gagnent quelque chose. Et puisque avec eux, en Europe, nous tous, nous gagnons quelque chose de plus, c'est une raison de plus pour être optimiste.
Ils sont très pragmatiques. Vous parlez l'anglais aussi bien que le français. Est-ce que vous allez participer à la campagne du oui en Grande-Bretagne? Déjà des demandes?
J'ai déjà fait quelques rencontres. Mais je suis très... Vous savez, il faut être très prudent. Parce que la seule chose qui est importante, c'est que à l'intérieur, ils écoutent des voix qui leur disent « ne sous-estimez pas votre rôle en Europe ». Parce que vous avez joué un rôle important en Europe pour beaucoup de sujets. Bon, si je pense aux pays comme le pays d'où je viens, qui est un pays qui protégeait les monopoles nationaux, je pense qu'on n'aurait pas aujourd'hui Vueling, EasyJet, Ryanair et tout ça, ce qui est super pour les jeunes, pour les gens qui veulent voler, qui veulent se déplacer en Europe et qui peuvent le faire grâce au marché unique, parce que ça a été la rupture des monopoles nationaux. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a eu Jacques Delors, il y a eu une forte Commission européenne, et il y a eu aussi un fort appui de la part des Britanniques. Donc, je cite ces sujets-là pour dire que le soutien et le rôle de la Grande-Bretagne a été plus important de ce qu'on s'imagine même.
Carrefour de l'Europe, grand témoin, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe avec aujourd'hui un grand témoin, Enrico Letta, et à mes côtés, Eric Scholl du Courrier International. Alors, Enrico Letta, les partis populistes sont partout à l'affût en Europe. Il y a évidemment le mouvement 5 étoiles en Italie, le Front National en France, le UKIP au Royaume-Uni, qu'on a un peu évoqué, l'Alternative pour l'Allemagne. De nombreux leaders européens expriment publiquement leur inquiétude quant à l'avenir de l'Union européenne, comme par exemple Jean-Claude Juncker. Vous partagez ce pessimisme ou pas?
Je pense qu'on est à un carrefour de l'Europe, pas seulement parce qu'on
donc
est ici.
Donc on prend la bonne direction.
Voilà, c'est ça. Mais on est vraiment dans un moment où le status quo n'est pas acceptable. Le status quo, ça veut dire faire des pas en arrière, aujourd'hui. Alors il faut faire des pas en avant, dans la bonne direction. Il faut changer cette Europe, la rendre plus positive, plus chaleureuse. Aujourd'hui, le grand problème, c'est que les gens voient l'Europe comme quelque chose de froid, qui ne porte pas de solutions positives pour leur vie. C'est pour ça que je plaide pour une Europe chaleureuse qui mette sur la table des propositions qui parlent aux gens directement. Quand je pense, par exemple, aujourd'hui, une des grandes questions de nos sociétés est la montée du chômage des jeunes. Alors, il y a trop de temps du moment où un jeune sort de ses études au moment où il commence réellement un travail, un job. Alors je pense que l'Europe pourrait là devenir chaleureuse et très positive pour nos familles, pour nos jeunes, avec cette idée par exemple d'un Erasmus de l'apprentissage, avec une poussée de mettre là de l'argent et rendre possible pour 1 million de jeunes de faire une expérience de 9 mois dans un autre pays européen, apprendre un travail, une langue, et puis rentrer chez soi avec donc un bagage de apprentissage qui leur donne la possibilité de commencer à travailler avec après avoir eu la possibilité d'avoir appris une langue, un métier, ce qui est essentiel avec l'aide de l'Europe. Vous imaginez-vous la possibilité dans nos familles, le soir, de discuter en famille de cette opportunité et non pas seulement de parler de l'Europe comme le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas. Je pense que ce serait déjà quelque chose de très important et de positif. C'est pour ça que je dis il faut une Europe aujourd'hui plus chaleureuse, qui parle au cœur des gens, qui donne des opportunités, surtout aux jeunes.
Éric Scholl.
Vous parliez du chômage des jeunes. Si on prend de manière plus générale le chômage, on s'aperçoit qu'il y a des divergences très importantes aujourd'hui dans les situations entre différents pays. On a des pays qui sont à moins de 5% en termes de taux de chômage, et on a des pays avec des taux de chômage beaucoup plus élevés, en particulier en Grèce, en Espagne ou ailleurs. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on est capable de rassembler l'ensemble de ces pays sur des politiques communes ou qui se retrouvent dans des objectifs communs menés et montés par l'Union européenne?
Oui, je pense que cette idée de l'Erasmus, de l'apprentissage, est une des idées, comme aussi les idées liées aux très importantes réformes qu'il faut faire dans les différents pays. Mais je veux stresser le point sur le fait que ce soit l'Europe à avoir des drapeaux comme l'Erasmus a été, et pour ma génération, les générations après la mienne, des drapeaux qui puissent devenir quelque chose pour lequel les gens, les jeunes gens disent « j'ai quelque chose de plus grâce à l'Europe ». Vous savez, ce qui s'est passé avec l'entrée de l'euro, on n'avait pas compris ce que psychologiquement aurait donné avoir l'euro dans nos poches. Les gens ont commencé à mettre l'Europe à côté des gouvernements nationaux et des gouvernements locaux entre les responsables de leur propre train de vie. Avec une grande différence que vous pouvez changer un gouvernement local, un maire, avec votre vote. Vous pouvez changer un gouvernement national. En réalité, le cycle démocratique en Europe est très différent et très compliqué. Donc, vous avez quelque chose qui influence votre vie, mais sur lequel vous ne pouvez pas jouer de l'influence. Et donc, voilà une des raisons du refus aujourd'hui pour l'Europe, comme on l'a bâti. C'est pour ça qu'il faut une Europe plus démocratique, et il faut une Europe dans laquelle ces idées chaleureuses, positives, qui ajoutent et qui n'enlèvent pas seulement, soient le centre, le cœur.
Ce que vous évoquez, c'est aussi une certaine incarnation de l'Europe. On a tous en mémoire la blague d'Henri Kissinger, l'Europe qui est le numéro de téléphone. C'est vrai, qui incarne l'Europe? Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, Martin Schulz, celui du Parlement, Donald Tusk au Conseil, voire votre compatriote Mario Draghi à la tête de la BCE. C'est vrai, c'est quoi l'Europe?
Moi, je vois que tous, ils sont en train de faire un grand job dans leur domaine. Le grand sujet, c'est que aujourd'hui, si vous demandez dans la rue à quelqu'un qui est le leader de l'Europe, il va vous répondre probablement Merkel ou Hollande, son propre chef de pays.
Plus probablement Merkel qu'Hollande d'ailleurs.
Mais en Italie par exemple, on va vous répondre le couple franco-allemand. Alors, on a une Europe qui n'est pas menée par les leaders des institutions européennes, mais qui est menée par les leaders des pays membres, qui sont leaders élus par leur circonscription nationale. Et ils sont leaders européens un jour par mois. Le reste, ce sont des leaders nationaux. Alors là, je vois un problème démocratique et je pense qu'il faut absolument trouver la solution de même le Parlement européen. Vous avez des membres du Parlement européen qui sont élus dans leur pays et non pas au niveau européen. Il faudrait qu'il y ait un mandat européen pour les membres du Parlement européen. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut entrer dans une logique dans laquelle l'Europe compte dans nos vies, mais on n'a pas le cycle de la responsabilité politique en Europe, donc on ne peut pas changer les leaders européens, on ne peut pas entrer dans ce débat. Il faut que quelque chose change, parce que le rôle de l'Europe est très important, et quand je... Quelquefois, j'entends des leaders nationaux qui disent, pour prendre des votes faciles, assez avec l'Europe, il faut retourner au bon vieux temps dans lequel on avait les frontières et la monnaie nationale. Alors, ce sont des blagues. Parce que, imaginez-vous de retourner aux monnaies nationales. Imaginez-vous de gérer les migrations avec seulement des politiques nationales. C'est impossible, ingérable seulement au niveau national. Seulement ensemble, on peut gérer ces grands phénomènes. Et même ensemble, on a de la difficulté à le faire.
On sent bien qu'il y a des difficultés d'ailleurs. Il y avait traditionnellement une Europe du Nord, une Europe du Sud, une Europe allemande qui, bon, était un peu, on va dire, pas très sympathique à l'égard de l'Europe du Sud, les Italiens, les Portugais, les Espagnols et les Grecs. Puis il y a maintenant cette cassure entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, avec des Polonais, des Tchèques, des Hongrois hyper nationalistes qui se demandent presque parfois ce qu'ils font dans cette Europe, dans cette Union Européenne.
Oui, là j'ajoute la leçon que nous sommes en train de tirer des États-Unis. Parce qu'il ne faut même pas penser que tous les problèmes de la politique sont les problèmes de l'Europe. Parce que ce qui est en train de se passer avec Donald Trump est je pense, la conséquence du fait que c'est la politique dans nos démocraties occidentales, dans lesquelles la communication, l'Internet, le temps réel sont en train de changer la donne. Et sont en train de créer des situations dans lesquelles la réponse de la politique traditionnelle n'est pas à la hauteur. La réponse des partis traditionnels n'est pas à la hauteur. Et c'est une question qui concerne toutes les démocraties occidentales. On voit ce que Donald Trump est en train de faire à son propre camp politique. Ils sont tous contre lui et il est en train de gagner.
C'est la même chose en Hongrie, c'est la même chose en Pologne pour vous?
Écoutez, quand je vois l'attitude de ces leaders, je pense que ces leaders, ils pensent
à leurs électeurs et ils cherchent de flatter avec les arguments les plus populistes, les plus nationalistes. Mais est-ce que c'est le temps du nationalisme? Est-ce que l'État-nation, aujourd'hui, dans le temps de l'Internet, a un rôle si important que ça? Je pense que c'est un rôle qui a été beaucoup basculé et je pense que la question est aujourd'hui celle de comprendre que ou bien on entre dans l'idée que les niveaux supranationaux doivent être plus efficaces dans les décisions qu'ils prennent, ou bien on va avoir d'efficacité ni au niveau national ni au niveau supranational. Et on va avoir une situation de poudre, le pouvoir qui devient poudre. Et ça, je pense, c'est le vrai risque qu'on est en train de courir. Là, il faut qu'il y ait des... vous savez, quand on parle de climat, Paris a été le témoin, COP21, le succès de la COP21. Quand on parle du climat, là, on a tous l'impression de toucher quelque chose de très concret, qui va concerner la vie de nos enfants, et on veut une vie pour nos enfants qui ait des règles positives pour le climat, l'environnement, mais on sait très bien que chacun, au niveau national, ne sera pas en condition de résoudre ces problèmes-là. Il faut donc un niveau supranational qui marche, en condition de donner des solutions. C'est pour ça que je dis que l'Europe est si importante que ça.
Éric Scholl.
Mais on voit pourtant bien qu'il y a un rejet des élites européennes, notamment. Et là, en ça, c'est assez comparable avec le phénomène Trump aux États-Unis, c'est-à-dire le rejet des élites de l'establishment. Il y a un rejet de ce qu'on appelle Bruxelles. On l'a encore vu récemment en France sur la politique agricole commune. Tout de suite, Bruxelles se retrouve dans le viseur, disons, de la colère. Alors, comment, vous parlez d'efficacité, comment remettons de l'efficacité dans ce supranational? Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche?
Bon, premièrement, il faut de la politique et de la politique différente. Les partis traditionnels, de mon point de vue, sont arrivés à la fin. Donc il faut changer complètement la donne, la façon dans laquelle les partis traditionnels imaginent de faire leurs propositions. Quand je parle du fait que les carrières de 40 ans de gens qui n'ont fait que de la politique dans leur vie, c'est terminé, je dis exactement ça. Dans le refus de l'establishment, il y a quelque chose de populiste, mais il y a aussi quelque chose de vrai. Il y a les gens qui disent, bon, écoute, je te vote, mais tu fais la vie comme la mienne. Donc, tu fais une vie dans laquelle tu sais ce que ça veut dire faire la vie normale. Si tu n'as jamais eu la possibilité de travailler dans ta vie parce que tu as été toujours payé par le Parlement qui t'a élu, naturellement, ça ne marche pas. Alors, là, il y a un sujet. En Italie, on connaît très bien ce sujet-là parce que on a vu passer de 0 à 25% à la première élection, un parti politique, le parti de M. Grillo, qui avait exactement ce point comme le point principal. Et donc, moi aussi, j'ai appris cette leçon. Et je pense que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est exactement le même sujet. En France, si je peux me permettre, il y a quelque chose de plus. Il y a aussi un côté Paris, reste de la France, donc élite establishment, qui en France est considéré comme la même chose avec la capitale, et vous avez donc des partis comme le Front National qui ont beaucoup de voix dès qu'ils sortent de Paris. Et le grand sujet est une politique qui soit en condition de changer, ça c'est la première chose, et je pense que la fin des partis traditionnels est la conséquence la plus directe, donc un changement radical de la façon dans laquelle le parti traditionnel s'organise et présente leurs candidats, leur personnel politique. Deuxième, il faut au niveau européen qu'il y ait une possibilité, non pas seulement de mettre en marche des grands projets dont on ne voit pas la fin et les conséquences. Le plan Juncker, c'est une des choses dont on a parlé le plus à la fin de l'année 2014. Très bonne idée, un grand plan d'investissement au niveau européen, une espèce de New Deal, 315 milliards d'euros. La vérité, c'est qu'on n'a rien vu jusqu'à maintenant. On a un grand travail bureaucratique qui a été fait, et c'est positif, parce qu'il faut que les choses marchent. Mais aujourd'hui, on est mars
2016, ce n'est pas possible que après un an et demi, une chose comme si importante que ça ne soit pas encore mise en marche. Alors, l'application de ces idées est essentielle.
Alors justement, on arrive au terme de cette émission. À ceux qui désespèrent de l'Europe, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vraiment en quelques mots?
Bon, simplement que sans Europe, nous allons tous, nous les Européens, vivre dans le passé. Avec une Europe plus unie, dans le monde de demain, avec les grands géants de demain, on fera en sorte que les valeurs européennes, qui sont différentes des valeurs d'autres pays du monde, nos valeurs européennes seront appliquées. Et donc nos enfants vont vivre dans un monde, pourront vivre dans un monde dans lequel les valeurs européennes auront encore une force. Ce qui ne sera pas le cas si nous serons tous isolés, séparés, tout seuls face aux géants de demain. Et alors là, nous serons seulement ceux qui vont appliquer les règles que Américains et Chinois vont décider à eux tout seuls. Je ne voudrais pas vivre dans ce monde-là.
Merci, merci Nalcoletta d'avoir été au carrefour de l'Europe. Merci Eric Scholl, Courrier International. Réalisation audio, Guillaume Munier. Réalisation vidéo, Cyril Etienne et Laure Tamperville. Pour retrouver cette émission en audio et en vidéo, rendez-vous sur la page Carrefour de l'Europe, sur le site RFI.fr ou encore via les applications mobiles mais gratuites de RFI. On reste en contact bien sûr avec Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Paris, Rome, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.